Maintenant, juste avant la prédication, une autre personne qui nous visite ce matin, c'est Mélanie Leclerc. Et Mélanie est venue nous visiter au groupe des collèges et carrières cet automne, je pense. Oui, c'est ça, cet automne. Et puis, elle a un projet pour la mission, de partir en mission à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et veut travailler avec Wycliffe pour... qui travaille à la traduction des Écritures dans d'autres langues et elle va pour un projet particulier là-bas. Et elle est venue nous présenter son projet parce qu'on a décidé, comme vous, pour ceux qui étaient là à la réunion annuelle, de la soutenir dans ce projet à court terme de 2 ans. On va la soutenir pour son projet qui devrait commencer sous peu. Alors, je lui ai demandé de venir nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur et puis de nous parler un peu de son projet pour qu'on puisse la connaître, aussi prier pour elle, puis savoir de qui on parle lorsqu'on parle de Mélanie. Alors, Mélanie, bienvenue avec nous. C'est bon. Comment? Oui, tu peux prendre, excuse-moi, je l'ai remis là, mais c'est pour toi.
Du temps des fois de voir le fruit d'une idée que Dieu nous met à cœur, mais ça vaut la peine d'attendre puis de suivre Dieu. Puis justement, mon projet, c'est d'aller faire de l'alphabétisation, qui est apprendre aux gens à lire et à écrire dans leur langue maternelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 2 ans. Et en fait, quand les enfants sont partis, ils sont déjà partis dans la jungle, il faut juste qu'ils franchissent une porte. Mais moi, pour aller dans la jungle, ça va me prendre 2 jours. Fait que j'aimerais ça des fois, juste ouvrir la porte, ça serait plus simple. Mais non. Donc, en vous présentant mon projet, j'espère que vous allez pouvoir être encouragés de voir que Dieu peut utiliser tout le monde, tous les gens qui veulent le suivre pour sa gloire, que ce soit au Québec ou que ce soit dans un pays à l'autre bout du monde. Et donc, ma prière pour vous, c'est vraiment que vous ayez aussi un cœur pour les peuples minoritaires. Donc, moi, j'ai 25 ans, j'ai étudié en linguistique pour pouvoir être formée pour aller faire de l'alphabétisation. J'ai fait un certificat aussi en alphabétisation à l'école de linguistique en Colombie-Britannique. Et cette vision-là sur mon cœur est venue en 2008, alors que j'avais jamais compris comment c'était important l'éducation, parce que c'est donné au Québec. En Amérique du Nord, on grandit, on va à l'école, puis on continue toute notre vie. Mais il y a des gens qui sont pas aussi chanceux, qui peuvent pas. Puis, pour connaître un peu ce qui se passe dans le monde, faut avoir de l'éducation, faut savoir lire, faut savoir écrire. Et moi, j'avais 3 passions dans ma vie. J'aimais Dieu, j'aimais les langues et j'aimais les différentes cultures. Mais comment trouver un job que tu peux mettre tout ça ensemble? J'avais aucune idée jusqu'en 2010 où un ami m'a parlé de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Et c'est là que, pour moi, ça fait « ta-da! » C'est vraiment ça que je veux faire. La mission de l'organisme, ça touchait vraiment mon cœur. Et donc, c'est là que j'ai pu poursuivre toutes mes études et venir jusqu'où je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter ce projet. Et donc, moi, j'ai souvent été touchée du fait qu'on peut lire la Bible dans notre langue maternelle. Moi, c'est le français. Je lis aussi en anglais comme si c'était ma langue maternelle. Puis, je peux lire en espagnol aussi. Mais le français, ça me touche vraiment. Puis, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde sur la planète. Donc, j'aimerais faire un exercice qui est celui-ci. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez répondre. OK. Parfait. Donc, tout le monde est capable de lire en français. Ça dit « Dieu est amour ». Certains d'entre vous peuvent lire en anglais, d'autres en espagnol. Ensuite, on va passer à l'autre. Ceux-ci, êtes-vous capable de lire? Bon, on sait ce que ça veut dire, c'est Dieu est amour, mais en des langues différentes. Donc, à la limite, si on était en Corée, mettons, on pouvait avoir un dictionnaire coréen, français, on serait capable de lire la Bible. On comprendrait certaines choses, mais est-ce que ça toucherait vraiment nos cœurs? Donc, en fait, je ne sais pas si vous savez il y a combien de langues dans le monde. Avant de mettre la diapo, attendez, si quelqu'un peut dire un chiffre. 3000? Un peu plus. Mais langue, dialecte, combien de... Ouais. 15 500, c'est un peu trop. C'est à peu près la moitié. Il y en a à peu près des langues connues, 6800. Donc là, on a le français, anglais, espagnol, russe, coréen, il y en a beaucoup. Donc, sur toutes ces langues-là, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir lire la Bible dans leur langue maternelle. En fait, pour juste en dessous de 2000 langues, ça représente 209 millions de personnes, la Bible ressemble à ceci, que vous pouvez voir sur les écrans. En fait, vous pouvez lire la Bible en toutes ces langues en ce moment. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'alphabet. La Bible n'a pas été traduite, elle n'est pas écrite. Donc, il y a quand même 209 millions de personnes qui ne peuvent pas connaître Dieu personnellement, à moins d'utiliser une traduction, et des fois, ça peut être assez difficile. Et dans ce cas-là, il faut aussi qu'ils sachent lire, par exemple, l'anglais. Donc, je trouve que il y a beaucoup de travail à faire encore, et moi, c'est pour ça que je veux me joindre à Wycliffe, parce que je veux que, quand ça dit dans l'Apocalypse, justement, dans le verset 7, chapitre 7, verset 9, qu'il y a des gens de tout peuple, toute tribu, toute langue, toute nation qui vont louer Dieu avec nous au ciel, eh bien, je veux participer à ce que ça arrive, et vous, en me soutenant, en fait, c'est ce que vous faites aussi, par extension. Donc, merci beaucoup pour ça aussi. Donc, l'organisation, en fait, avant juste ça, Wycliffe a commencé dans les années 1900, au début par un homme qui était au Guatemala qui vendait des Bibles en espagnol. Puis vers la fin de l'année qu'il faisait ça, il a rencontré un Indien Kakchikel. Puis là, il parlait en espagnol, puis là, il a dit « Ah, ben tiens, voici la parole de Dieu ». Donc l'Indien, il a essayé de le prendre, la Bible en espagnol, puis il a dit « Ah, mais je comprends pas l'espagnol. Pourquoi tu me dis que Dieu est si bon ?» Et donc, il a dit cette phrase-là qui est souvent utilisée. « Si ton Dieu est si grand, pourquoi ne parle-t-il pas ma langue? » C'est vrai, Dieu, il parle toutes les langues. Quelle langue qu'on va parler au ciel? Ben, la langue que Dieu va nous communiquer, je ne sais pas, en fait. Mais Dieu parle à tous individuellement. Donc, c'est vraiment comme ça que Wycliffe a commencé, parce que Cameron Townsend, le fondateur de Wycliffe, a dit « Ah, ben là, si vous n'êtes pas capable de comprendre la Bible en espagnol, puis vous avez une autre langue, il y en a combien d'autres sur la Terre? » Puis là, on a vu, il y en a combien, pardon. Donc, c'est pour ça que je joins Wycliffe. Leur but, c'est de vraiment de voir tous les peuples avoir la parole de Dieu dans leur langue maternelle. Et pour faire ça, en utilisant l'alphabétisation, tu peux changer. La traduction de la Bible, l'action sociale, l'alphabétisation, des moyens de promouvoir l'utilisation des Écritures une fois que c'est traduit aussi. Et ils ont un projet de la vision 2025 de voir un projet de traduction de la Bible commencer dans toutes les langues. Donc, ça l'avance assez rapidement maintenant. Il y a de plus en plus de travailleurs. Donc, vous pouvez aussi prier pour le projet 2025. Moi, où je vais aller, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, c'est un petit pays qui est juste en haut de l'Australie. Il y a à peu près 6 millions d'habitants, ce qui est 2 millions de moins que le Québec. Et c'est à peu près gros comme l'Espagne. Donc, c'est vraiment un tout petit pays. Puis, ce qui est particulier, c'est que c'est un des pays les plus complexes linguistiquement, parce qu'il y a 19% des langues qui sont sur ce pays-là. Ça, c'est la province où je vais aller, la province de Madang. Il y en a 164 langues juste dans cette province-là. Et donc, et c'est très petit. Et donc, dans le pays au complet, il y a 841 langues différentes. Donc, il y a la moitié qui n'a pas encore d'écriture, donc qui n'ont pas accès à la Bible. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Papouasie, soit avec Wycliffe, avec Pioneer Bible Translators, avec d'autres organismes aussi. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait là-bas. Et il y en a besoin. Le taux d'alphabétisation, c'est de 32 à 43%. Ça varie. Et la langue nationale, c'est l'anglais. Donc, imaginez que vous parlez seulement français, il faut aller à l'école en anglais. C'est très difficile. Donc, avec Wycliffe, les gens, les traducteurs, les gens qui travaillent en alphabétisation peuvent faciliter le transfert de la langue maternelle vers l'anglais, qui est quand même la langue nationale. La religion là-bas, c'est surtout, ils se disent nominalement catholiques, chrétiens, mais ils mélangent leur ancienne croyance d'animisme, de totémisme, toute leur tradition ancestrale avec les esprits, les chamans, avec un peu de christianisme ici et là, parce que pour eux, c'est un autre Dieu. Donc, tant qu'ils ne comprennent pas la réalité que Dieu est Dieu, le seul vrai Dieu, bien, ils peuvent mélanger un peu tout. Et sans avoir la Bible pour vérifier ce qu'ils connaissent ou ce qu'on leur dit, eh bien, c'est très dur pour eux de faire sur toute la de délaisser toute la tradition qu'ils ont connue, en fait. Donc, C'est ça. Donc, moi, je vais être à Madang. Et ce que je vais faire là-bas, eh bien, je vais être là pour une durée de 2 ans. Je vais être avec la dame que vous voyez en haut. Elle s'appelle Jan. Elle vient du Michigan, mais elle, ça fait 20 ans qu'elle travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et elle a travaillé en administration et en alphabétisation pendant 10 ans chaque. Et là, elle est en train de monter un projet qui va être étalé sur 5 ans. C'est un projet d'alphabétisation pour la province de Madang que je vous ai montré plus tôt. Donc, ça va être un projet. On va pas aller comme les anciens missionnaires dans une tribu, dans une langue pour 20 ans, le temps de tout faire. On va faire un projet régional où des gens de différentes tribus proches, qu'on a une langue commune, par exemple le Tok Pisin, qui est le créole national là-bas. Donc, on va les aider à apprendre à lire et à écrire à certains chefs. Ils vont retourner dans leur village, faire les essais. Ensuite, ils vont revenir pour faire des ateliers comme ça. On va faire des ateliers, par exemple, de dessin, des ateliers de lecture, d'écriture, de développement d'orthographe. S'il y a une langue qui n'est pas écrite et qu'on voit qu'il y a un besoin parce qu'il va y avoir une traduction de la Bible, il faut quand même choisir l'orthographe. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va en inventer un, on va utiliser l'orthographe coréen, celui qu'on utilise. C'est tout à décider avec eux là-bas. Parce qu'ils peuvent très bien dire « Non, on veut pas de ça ». Donc, il faut aussi pouvoir dialoguer avec eux. Et le projet que Jan a commencé, ça s'appelle MLAG en anglais. C'est Madang Literacy Advocacy Group. Dans le fond, c'est le groupe qui promouvoit l'alphabétisation dans la province de Madang. Et c'est surtout par les locaux, en fait, qu'ils prennent en charge. Donc, notre but, c'est pas d'arriver là et de dire « faites ça comme ça », mais c'est de travailler avec eux pour que ça soit durable. Comme ça, quand on va avoir appris à eux ce qu'on sait, comment on peut développer tout ça, eh bien, eux aussi vont pouvoir continuer et aller eux-mêmes dans d'autres groupes pour faire la même formation. Donc, c'est vraiment un projet qu'on voit à long terme et durable pour eux et pour vraiment qu'ils prennent en charge eux-mêmes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment on va utiliser l'outil que Dieu nous donne, c'est l'alphabétisation pour rejoindre les gens. C'est sûr qu'il va y avoir aussi la traduction de la Bible qui va se passer autour de nous. Mais nous, comme moi, mon outil, quand, où je suis formée, c'est en alphabétisation et c'est ça que je vais utiliser pour rejoindre les gens. Mais en même temps, c'est tout en vivant ma foi chrétienne, en répondant à leurs questions, en essayant d'être un exemple de Christ là-bas, dans la jungle. Et l'alphabétisation, c'est vraiment un domaine primordial quand on parle de traduction de la Bible, parce que si on a une Bible sur l'étagère et que les gens sont pas capables de la lire, eh bien, ça sert à quoi? Et sinon aussi, l'alphabétisation, ça va aider par rapport aux mathématiques. Quand ils vont aller au marché et que ça dit quelque chose, mettons que ça dit 5 $, mais qu'ils savent pas lire, quelqu'un peut dire « Ah, c'est 10 $ », mais s'ils savent lire, ils vont savoir c'est quoi le vrai prix. Puis aussi, ça peut aider pour toutes les maladies. Il y a beaucoup de sida là-bas, donc ça va créer du matériel aussi pour leur apprendre par rapport à ces maladies-là. Donc, je prépare ce projet-là depuis à peu près 3 ans. Donc, c'est il y a 3 ans que j'ai commencé à étudier en linguistique, que j'ai fait toutes les étapes. Et c'est vraiment grâce à la prière que je sais que c'est rendu où je suis aujourd'hui. Maintenant, en fait, j'ai acheté mon billet d'avion. Je devrais partir le 9 août, Dieu voulant. Il me reste encore un peu de soutien à ramasser. Mais Dieu a vraiment pourvu au cours de la dernière année. C'est bon. Quand Dieu a un projet, je pense qu'il fait tout pour que ça s'accomplisse. Puis, donc, si c'est quelque chose que Dieu vous met à cœur personnellement aussi, soit de me soutenir par la prière ou financièrement, vous pouvez venir me voir. Moi, je vais avoir la table à côté d'Olivier. Puis, j'ai aussi une feuille pour signer pour si vous voulez rester en contact avec moi, savoir ce qui se passe là-bas. Puis moi, c'est une manière de rester en contact avec vous. Je vais envoyer une lettre de nouvelles avec des photos et tout durant que je vais être là-bas pour partager mon projet. Donc, vous pouvez signer en arrière. Puis, si je peux juste vous demander une chose, ce serait probablement maintenant de prier surtout pour les papiers. C'est une chose de trouver toute mon équipe pour m'envoyer, mais si j'ai pas le visa nécessaire, je peux quand même pas partir. Et là, présentement, ça fait 1 mois et demi que c'est en traitement en Papouasie. Donc, j'attends la réponse pour mon permis de travail. Ensuite, j'applique pour mon visa, tout ça avant le mois d'août. Donc, si vous pouvez juste prier pour ça, ce serait le point principal. Puis aussi pour le temps qui s'en vient à un clos au Québec pour presque 2 ans d'expérience. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Ça me fait plaisir de vous en parler plus. Merci.
Merci beaucoup, Mélanie. C'est lorsque je considérais nos dons à la mission. Puis, à travers les cours que j'ai faits au séminaire, il y a une chose qui m'a frappé. c'est que 98% des dons qui sont faits à la mission, pas nécessairement dans cette église, mais dans l'ensemble des églises, vont à des endroits où l'église a déjà une présence et où là où l'évangile est déjà nommé. 98% des dons qui sont faits à la mission sont pour des champs missionnaires qui, où la parole de Dieu est déjà là, alors que seulement 2% sont là où s'en va là où l'évangile n'a pas encore été nommé, où les gens n'ont pas les écritures dans leur langue. Et une des choses qui est venue sur mon cœur, je dis, il faut qu'on augmente ça, ce pourcentage-là. Si on veut atteindre toutes les nations, toutes les tribus, toutes les nations avec l'Évangile, il faut qu'on augmente ce pourcentage-là. Et le projet de Mélanie est venu, et puis en priant le Seigneur, on voit que c'est une façon de commencer avec Wycliffe, de travailler avec eux et avec Mélanie pour travailler à ce que l'Évangile se rende là-bas, puis qu'on ait des gens qui vont parler de Christ là où il n'a pas encore été nommé. Et puis, ça rentre dans cette vision-là, et c'est pour ça qu'on vous l'a présenté ce matin. Je vous invite à aller voir sa table, poser des questions, prier pour elle, pour que le Seigneur puisse bénir ce projet-là. On va tourner ensemble maintenant dans Galates, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2. Galates, chapitre 2. On va poursuivre ensemble ce matin cette série dans l'Épître aux Galates. On a commencé il y a maintenant 3 semaines. On a eu 2 semaines dans le chapitre 1 où on a vu comment Paul cherche à adresser un problème important dans les églises de la Galatie et comment ce problème-là s'est manifesté. C'est entre autres par l'attaque du ministère de Paul. Et à travers le fait que Paul, son ministère est remis en question, l'Évangile est remis en question. Et Paul entame une série d'arguments pour démontrer que l'Évangile qu'il possède vient de Dieu, qu'il a reçu la grâce de Dieu. Et il poursuit dans le chapitre 2 avec un autre argument qu'on va lire ce matin, chapitre 2, les versets 1 à 10. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, ce matin, on est rassemblés ensemble parce qu'on veut célébrer ton nom, on veut célébrer ta gloire, la gloire que tu as manifestée en venant sur la terre. Jean, l'apôtre Jean a écrit que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et cette gloire, Seigneur Jésus, tu l'as manifestée humblement en te rendant obéissant jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et cette bonne nouvelle qu'un Sauveur est venu pour nous racheter, tu nous l'as laissée afin qu'on puisse l'annoncer. Tu l'as laissé à tes disciples pour l'annoncer. Il est venu jusqu'à nous. Et pour plusieurs d'entre nous, nous avons saisi cette bonne nouvelle et nous voulons t'en remercier, Seigneur. Et en même temps, on veut continuer cette œuvre que tu nous as demandé d'annoncer l'Évangile dans toutes les nations. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble dans ta parole. Ma prière, c'est que tu puisses nous bénir ensemble ce matin, alors qu'on plonge les regards dans ta parole. Ma prière, c'est que tu puisses calmer nos cœurs, nos pensées, calmer nos craintes, nos soucis qui pourraient nous déranger de t'entendre ce matin. Viens calmer nos cœurs par ton esprit, afin qu'on puisse saisir les vérités de ta parole et ce qu'on peut voir dans ce texte que tu veux que nous appliquions dans nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'Évangile. Je te prie maintenant de nous bénir ensemble, afin qu'on puisse vivre ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des choses que j'aime voir, que j'apprécie, puis d'autres, parfois, qui m'attristent. J'aime ça me voir quand mon cœur est animé d'une passion pour Dieu, puis que je vis pour la gloire de Dieu, puis que tout ce que j'ai envie de faire, c'est « Seigneur, je serais prêt à faire tout pour toi ». Mais parfois, je suis attristé parce que c'est pas ça le sentiment que je vois dans mon cœur. Ça m'arrive, et par la grâce de Dieu, d'être attristé par l'Esprit de Dieu, parce que c'est pas ça qui m'anime. Ça vous arrive parfois, probablement, vous aussi. J'aime voir mes enfants s'amuser ensemble, d'avoir du plaisir, puis de bien s'entendre, puis de voir qu'il n'y a pas de chicane. Mais quand il y a de la chicane, je suis attristé de ça. Je suis attristé de les voir se chicaner, d'avoir des conflits. J'aime voir mes amis, mes frères et sœurs en train de glorifier le Seigneur, mais ce qui m'attriste, c'est de voir que certains tombent dans le péché puis persistent dans ces péchés-là. Il y a des choses que j'aime voir puis d'autres qui m'attristent. Et une chose que j'aime voir dans les églises, c'est des églises qui ont à cœur la mission d'annoncer l'Évangile dans toutes les nations. C'est beau de voir une église passionnée pour l'Évangile puis qui... Tous les membres sont engagés dans cette vision-là. Moi, ça m'anime, puis c'est ce que j'aimerais voir ici, que je veux voir, que je commence à voir davantage, puis qu'on veut travailler une église unie pour la mission. Mais je suis attristé quand je vois des divisions dans les églises. Il ne faut pas se le cacher, l'église du Seigneur n'est pas parfaite. Puis dans ma vie, j'ai été témoin de divisions dans certaines églises, ça m'attriste énormément. Ce qui m'attriste le plus, par exemple, c'est que souvent ces divisions-là n'étaient pas causées par des faux enseignements des Écritures. Ça peut arriver des fois, il y a des divisions au niveau de l'enseignement des Écritures, il y a un enseignement qui est faux, mais souvent, dans les divisions que j'ai vues, ce n'était pas nécessairement causé par un faux enseignement, mais elle touchait plutôt des aspects secondaires du ministère. Par exemple, le style de leadership du pasteur ou des anciens. Le style de musique qui était joué dans les temps de louange, des accents particuliers sur des ministères plutôt que sur d'autres. Certains auraient aimé qu'on mette l'accent sur un ministère, d'autres auraient aimé d'autres, puis là, ça cause des divisions. Des conflits sur la façon d'accomplir la mission. Toutes ces choses-là sont secondaires, puis c'est souvent la source des divisions dans les églises. Même si je peux parfois reconnaître qu'il y a eu des erreurs de leadership dans certains ministères, je m'attriste quand je vois des divisions, surtout quand les gens de l'Église s'entendent sur l'essentiel, ils s'entendent sur ce qui est le plus important, mais permettent les choses secondaires de venir provoquer des divisions. Le problème dans ça, c'est qu'il nous arrive trop souvent d'oublier c'est quoi le lien qui nous unit ensemble. Quel est le lien qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ici, réunis ce matin? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une église ici à Longueuil? Ce qui est intéressant, c'est que le passage de ce matin parle justement de ce qui nous unit ensemble. Comme église, puis aussi avec les autres croyants, puis comment on peut exprimer cette unité-là? Dans le passage de ce matin, on voit que Paul poursuit la défense de son ministère en expliquant comment il a été reçu par les autres apôtres à Jérusalem. Et c'est ce qui constitue son troisième argument dans la défense de son ministère. Comment il a été reçu par les autres apôtres? Il y a deux semaines, on a vu les deux premiers arguments, entre autres, son message, en fait, c'est ça, il y a deux semaines, son message et son ministère vient de Dieu. Chapitre 1, verset 11, l'évangile que j'ai reçu n'est pas de moi, n'est pas d'un homme, il vient de Dieu directement. Donc, le message que j'ai reçu vient de Dieu. Et deuxièmement, l'évangile, je l'ai vécu, la grâce de Dieu dans ma vie qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait saisir Jésus-Christ, puis maintenant, je suis passé d'un persécuteur de l'Église à un gars qui vit pour la gloire de Dieu, qui cherche à annoncer l'Évangile. Deux arguments. Le message vient de Dieu, puis Dieu a opéré une œuvre de grâce dans ma vie qui m'a complètement changé. Maintenant, dans le passage, ce troisième argument, en fait, qui se résume dans les versets 1 à 10, c'est que maintenant, il va affirmer qu'il a reçu la main d'association des autres apôtres. Et la main d'association veut dire qu'il a reçu, dans un sens, l'approbation. Les autres ont reconnu le ministère de Paul comme un ministère de l'Évangile. Et il va nous expliquer comment ça s'est arrivé à travers son voyage à Jérusalem. Mais dans le passage, on voit que ce qui lie, ce qui unit véritablement les croyants de l'Église, c'est l'Évangile. C'est pas un style de musique, c'est pas un ministère particulier, c'est pas un leader en avant. Ce qui unit l'Église puis les frères et sœurs dans l'Église, c'est l'Évangile. Et on a besoin de se rappeler que l'Évangile est ce qui nous unit et qu'il doit demeurer au cœur de notre ministère si nous voulons accomplir efficacement la mission d'apporter le salut dans toutes les nations. Si on veut se rendre jusqu'aux extrémités de la terre puis apporter le salut de Jésus-Christ dans toutes les nations, on doit s'assurer que c'est l'Évangile qui nous unit et s'en rappeler puis le garder au cœur de tout ce que nous faisons, au cœur du ministère de l'Église de l'Espoir. Puis on va noter dans le passage, trois façons d'exprimer l'unité pour l'Évangile dans notre ministère. Comment on exprime cette unité-là? L'Évangile nous unit, mais comment on le vit? Premièrement, en étant unis dans la compréhension du message de l'Évangile. Deuxièmement, en étant unis dans la préservation du message de l'Évangile. Et troisièmement, en étant unis dans la mission d'annoncer l'Évangile. Comment on vit cette unité-là? Comment on vit pour l'Évangile ensemble, puis on reste unis entre frères et sœurs dans l'Église et avec d'autres églises dans cette mission-là, c'est qu'on doit premièrement être unis dans la compréhension de l'Évangile. Et on voit dans les versets, ça entre autres, dans les versets 1 et 2. Paul dit qu'il va aller à Jérusalem après quelques temps de ministère, et c'est probablement après son premier voyage missionnaire, il va par révélation, aller à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Il va dire début du verset 2, et ce fut par une révélation, d'après une révélation que j'ai montée, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Et il s'en va à Jérusalem pour parler aux apôtres, rencontrer les autres apôtres et leur exposer le message qu'il enseigne. Le problème, c'est qu'il y avait entre autres dans les églises, il a commencé à dire que l'Évangile était parti de Jérusalem, les apôtres avaient annoncé, puis là, il commence à avoir un autre ministère qui naît ailleurs, en dehors du peuple juif. Les païens commencent à se convertir. Dieu utilise Paul pour être l'apôtre des païens, puis dans un sens, ceux qui ne sont pas juifs, lorsqu'on dit païens, les non-juifs, ceux qui n'étaient pas juifs, commencent à se convertir. Puis là, il y a comme un doute qui se soulève. Est-ce que ce ministère-là de Paul est vraiment valide? Est-ce que Paul est en train de faire un bon ministère que, dans un sens, c'est vraiment le ministère de l'Évangile? Et Paul, par révélation, la tension commence à monter dans les églises et tout ça. Il a besoin d'aller à Jérusalem et il va aller rencontrer les apôtres. Et on va voir, suite à cette rencontre-là, qu'il y a eu la main d'association, il y a eu une unité qui s'est développée. Mais Paul va à Jérusalem pour défendre son, en quelque sorte, son ministère, puis il est de retour d'un voyage missionnaire parmi les églises de la Galatie, entre autres, et il revient pour exposer l'Évangile. Et donc, ce qui nous unit, c'est la compréhension de l'Évangile. Et ce que les apôtres vont faire, c'est, est-ce que Paul et les autres apôtres sont unis dans cette même compréhension de l'Évangile? Et ce que Paul a besoin de faire, je leur expose l'Évangile que j'ai prêché. Alors, on peut noter trois éléments qui démontrent une bonne compréhension de l'Évangile, et on le voit à travers le passage et d'autres passages. C'est quoi une bonne compréhension de l'Évangile? Si Paul travaillait, comme on l'a vu dans le chapitre 1, à défendre le vrai Évangile, parce qu'il y en a un seul, c'est quoi le vrai Évangile? Parce que l'Évangile, c'est la raison d'être de l'Église, puis la mission qui l'accompagne est propulsée, si je peux dire, par l'Évangile. Et l'Évangile que Paul prêche, il l'expose entre autres aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, je vais vous lire ce qu'il mentionne, il dit « Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Voilà ce que nous prêchons. Alors, quel est l'Évangile que Paul prêche? Est-ce que c'est le vrai Évangile? Le vrai Évangile que Paul prêche, c'est que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et par la suite, il va dire aux Corinthiens, c'est ce que vous avez cru. Et donc, il annonce là pour que les gens croient que Jésus est venu sur la terre pour pardonner. Il est mort pour les péchés, pour que nous soyons pardonnés pour nos péchés. Il n'est pas resté mort, il est enseveli, puis il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et maintenant, il règne au ciel. Et puis, ça, c'est l'Évangile que Paul prêche. On l'a vu aussi dans Galates 1, qui dit, là, au verset 4, lorsqu'il dit qu'il s'est donné lui-même, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, pour nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. Et donc, qu'est-ce que c'est l'Évangile? Christ est venu. Il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité. Pourquoi on avait besoin de ça? Pour être réconcilié avec Dieu. Si je suis un pécheur qui a péché, je ne peux pas entrer en relation avec Dieu. Mais par l'œuvre de Christ, par sa mort et sa résurrection, Christ a tout payé à la croix. Puis par sa résurrection, il a montré qu'il avait le pouvoir sur la vie. Et je peux avoir la vie éternelle et être pardonné de mes péchés par l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir. C'est quoi l'Évangile que Paul prêche? C'est ça. Christ est mort pour nos péchés. Placez votre confiance en lui pour avoir la vie éternelle et être pardonné et vivre d'une joie éternelle. Pour être uni dans l'Évangile, il faut s'entendre sur ce que c'est. Si on veut être unis ensemble dans l'Évangile, on doit avoir une bonne compréhension de l'Évangile et on doit annoncer ensemble le vrai Évangile. On doit aussi comprendre qu'est-ce que c'est la conversion. La conversion, ce n'est pas simplement une profession de foi. Lorsque quelqu'un, souvent dans nos églises, on a annoncé l'Évangile. On annonce l'Évangile, puis on arrive à la fin d'une présentation de l'Évangile, puis il dit, tu veux-tu prendre cette décision-là d'accepter Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, puis si tu veux, je te conduis dans une prière. Puis on l'appelle, on l'a un beau nom pour cette prière-là, la prière de repentance. Et là, la personne dit la prière de repentance, est sauvée, c'est réglé, il a dit la prière de repentance. Puis souvent, c'est ça qu'on pense. Est-ce que c'est vraiment ça, la conversion? Est-ce que la conversion, c'est dire une prière de repentance? Non. La conversion, c'est quand l'œuvre de l'Évangile vient dans le cœur de la personne, par l'Esprit de Dieu, le cœur est transformé, puis on voit un changement. Je peux dire que quelqu'un est sauvé parce qu'il y a les fruits de quelqu'un qui a été transformé par l'Évangile, pas simplement parce qu'il a dit une prière. La prière, parfois, c'est l'expression de ce qui vient réellement du cœur. Mais souvent, c'est « je vais répéter ça, puis je vais avoir mon ticket pour aller au ciel ». C'est pas ça. La prière, ce n'est pas un ticket pour aller au ciel. La prière, c'est lorsque on croit réellement dans notre cœur que Jésus est venu pour sauver et qu'il est ressuscité des morts, on confesse de notre bouche, on est sauvé, mais parce que c'est en croyant du cœur qu'on vient à la repentance. Mais il faut que ce soit réel. Et ça se manifeste comment, une conversion? Par une nouvelle vie, un changement. La personne est passée de la mort à la vie. Elle manifeste les fruits de l'Esprit dans sa vie. Donc, on doit annoncer l'Évangile, mais on doit comprendre aussi c'est quoi la conversion. Parce que souvent, on peut arriver à dire, « Hey, mon frère, ma sœur, salut! » Puis, j'ai aucune idée. Es-tu mon frère ou ma sœur? J'ai jamais entendu son témoignage. Je conclue parce qu'il vient à l'Église, qu'il est un chrétien. Quand on travaille ici à l'Église avec les équipes de visite, puis le cours La foi chrétienne, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on assume que personne qui vient ici a saisi l'Évangile. Jamais je veux assumer que quelqu'un qui met les pieds dans cette église a saisi la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire? On va entrer dans des discussions pour comprendre puis voir qu'est-ce que Dieu a fait. Un peu qu'est-ce que les apôtres ont fait avec Paul. Parle-nous de ce que Dieu a fait. Puis il vient pour exposer l'Évangile, puis il vient de partager la grâce que Dieu lui a fait. Et finalement, on a besoin de bien comprendre l'Évangile, comprendre correctement la conversion, puis annoncer, croire que l'Évangile est suffisant et que c'est l'Évangile seul qui sauve. C'est pas tout ce qu'on fait à côté, c'est pas les œuvres de bienfaisance, c'est pas de donner de la nourriture qui sauve, c'est la proclamation de l'Évangile, puis que lorsque l'Évangile, Dieu fait une œuvre dans les cœurs, c'est là que les personnes sont sauvées. Et donc, on a besoin de s'assurer qu'on comprend ce que c'est exactement l'Évangile. Et souvent, comme je disais à l'Église ici, on prend le temps de parler aux gens. On veut vous connaître. On veut apprendre à vous connaître pour savoir quelle est l'œuvre que Dieu a fait dans votre vie, s'il en a fait une. Où vous vous situez par rapport à l'Évangile. Puis je suis conscient qu'ici, ce matin, je suis en train de parler à des gens qui ont totalement saisi l'Évangile, alors que d'autres sont encore en questionnement par rapport à ça. Notre désir comme Église, c'est de proclamer l'Évangile, puis de vous dire comment Dieu nous a fait grâce. On a reçu une grâce de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, puis on veut vous le partager. Alors, si vous avez des questions, on est disponible pour ça. On veut vous aider. Mais une des choses, souvent, c'est que les gens disent, « Ouais, il me semble que c'est long, ce processus-là, de rentrer dans votre Église là, avec le cours de baptême, un cours de membre, puis tout ça. C'est long. Pourquoi? » Parce qu'on veut être unis dans notre compréhension de l'Évangile. Parce que si on n'est pas unis dans la compréhension de l'Évangile, comme on le voit dans le passage, ça provoque des divisions par la suite. Mark Dever, dans la conférence Together for the Gospel, a intitulé son message, je ne l'ai pas noté, mais dans le sens d'avoir une compréhension de l'Évangile correcte de la conversion, si l'Église n'a pas une compréhension correcte de la conversion, c'est le suicide de l'Église. Parce que si la conversion n'est pas réelle dans le cœur des gens, je suis en train d'accepter probablement un faux frère, une fausse sœur, qu'on est en train de dire, tu fais partie de nous autres, on est unis ensemble, mais finalement, on ne l'est pas réellement. Et on voit que c'est un problème même dans l'Église, dans l'Église à Jérusalem, et Paul va l'adresser, ce problème-là. Et ça nous amène justement à cette deuxième façon où on peut exprimer l'unité dans le ministère de l'Évangile, pas seulement par une bonne compréhension de l'Évangile, mais aussi par une préservation, de garder le message de l'Évangile et de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres qui viennent apporter un autre Évangile pour épier, comme dirait Paul, la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Et on a besoin ensemble d'être unis dans la préservation du message de l'Évangile. Et Paul va l'exprimer, entre autres, à travers tout ce qui s'est passé avec Tite. Paul va à Jérusalem avec Tite et avec Barnabas et Tite. Barnabas est un juif, Tite est un grec. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Tite, en étant un non-juif, n'est pas circoncis. Et là, pourquoi on parle de circoncision, d'incirconcision, tout ça, qu'est-ce qui est important là-dedans? Il faut comprendre ce que l'Ancien Testament demandait aux Juifs pour comprendre pourquoi on parle. C'est tout le passage parle de circoncision, incirconcis. D'où c'est que ça sort, toute cette affaire-là? Bien, dans l'Ancien Testament, en fait, Dieu avait donné une alliance à Abraham. Le père de toute la nation d'Israël, des Juifs, c'était Abraham. Et lorsque Dieu vient, on voit ça entre autres dans Genèse 17, vous pourrez aller le lire si ça vous intéresse. Dieu vient avec Abraham, je vais t'établir comme père d'une grande nation. Puis je vais vous bénir, je vais vous donner un pays, etc. Et Dieu dit, vous allez observer ceci. Le huitième jour, tous les enfants mâles vont être circoncis. Puis ça va être le signe que vous êtes mon peuple. Un signe qui est en train de démontrer que c'était le peuple de Dieu qui plaçait sa foi en Dieu. Et donc, tous les Juifs, et même encore aujourd'hui, pratiquent la circoncision le huitième jour après la naissance des enfants mâles, comme marque, comme signe qu'ils sont le peuple, qu'ils sont entrés dans une alliance avec Dieu. Maintenant, Tite est un grec, et Tite n'est pas juif, mais il s'est converti au christianisme qui découle du judaïsme, en quelque sorte, qui découle des enseignements de l'Ancien Testament. Et là, ça pose un problème pour les Juifs. Il n'est pas circoncis, lui. Puis Dieu avait même dit à Abraham, si tu ne circoncis pas, je vais t'exterminer de mon peuple. Donc, c'est un grec, il n'est pas circoncis, il devrait se faire circoncire, sinon Dieu va l'exterminer du peuple. Comment on comprend la circoncision? Et donc, le rite de la circoncision, maintenant que Christ est venu. Et là, Paul va adresser toute cette question-là, verset 3. « Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Et donc, le problème, c'était que le peuple de Dieu, les Juifs, avaient mal compris le signe de la circoncision. Pour eux, c'était Dieu nous a fait grâce d'être son peuple. Alors, avec la foi plus la circoncision, on reçoit le salut. Est-ce que c'était ça que Dieu voulait? Est-ce que c'était la foi plus la circoncision qui faisait qu'il était juste devant Dieu? Non. Dieu dit, le juste vivra par sa foi. Et donc, il avait changé l'ordre. Et plutôt que de voir la circoncision comme un signe de cette alliance qui était avec Dieu, il l'avait mis comme un prérequis pour rentrer dans l'alliance avec Dieu. Et donc, Dieu fait grâce, on est son peuple, je place ma foi en lui, je suis sauvé et je me fais circoncire. Ça, c'est le bon ordre. Parce que à cause que j'appartiens à Dieu maintenant, je me fais circoncire. Et dans un sens, le peuple de Dieu avait inversé. Et donc, il avait fait de la circoncision, une exigence pour le salut, et on le voit dans les versets 3 à 5. Mais avant tout, ce que Dieu désirait, ce n'était pas une circoncision dans la chair. On le voit dans plusieurs passages des Écritures, que Dieu, ce qu'il voulait réellement, c'est une circoncision du cœur, un cœur qui est transformé, qui désire obéir à Dieu. Et c'est à cause que mon cœur est circoncis que je me fais circoncire. Et non pas l'inverse, je ne suis pas circoncis pour avoir une circoncision du cœur. C'est vraiment par la foi en Jésus-Christ. Et le désir de Dieu, c'était qu'il y ait une circoncision du cœur, un cœur transformé. Et ce cœur-là est venu en Jésus-Christ. Et maintenant, les faux frères, qui étaient probablement des Juifs qui s'étaient inglissés, voulaient imposer la circoncision comme un moyen de salut, alors que ce n'est pas un moyen de salut, mais c'était plutôt, pour les Juifs, une façon d'exprimer l'alliance. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Paul a reconnu ces faux frères-là, il a reconnu le faux enseignement, et il a adressé cela. Il dit, on leur a résisté, on n'a pas cédé un instant. Et pour être unis dans l'Évangile, on a besoin d'être unis aussi dans la préservation de l'Évangile. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut reconnaître quand le mauvais message est annoncé. Paul a reconnu le mauvais message. Vous obligez un grec de se faire circoncire. Par la foi en Jésus-Christ, il a déjà reçu toute la justification. Il a déjà tout justifié, déjà sauvé. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'ajouter. Il faut observer, en quelque sorte, quand quelqu'un vient, on cherche à comprendre comment il comprend le salut, on cherche à voir comment il est sauvé, et est-ce qu'il ajoute quelque chose à Jésus-Christ? Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose à Jésus-Christ pour être sauvé? Puis on l'a vu là 3 semaines, c'est juste Jésus. Seulement l'œuvre de Christ qui a tout accompli pour nous, qui peut nous sauver. Rien de plus. On n'a rien à ajouter. Et lorsqu'on entend quelqu'un nous partager l'Évangile, et dans EE, on pose une question pour voir qu'est-ce que la personne comprend de l'Évangile, c'est si tu te présentais devant Dieu et Dieu te demandait pour quelle raison je te laisserais entrer au ciel, qu'est-ce que tu répondrais? Et nous, ce qu'on cherche à entendre, c'est Jésus seul. C'est Jésus seul qui me sauve. Mais si c'est Jésus, mais plus, on doit replonger nos regards dans l'Évangile pour comprendre que l'Évangile, c'est Jésus seul, notre espoir, qui sauve, qui nous pardonne de nos péchés. Donc, il faut reconnaître quand le message est différent, puis il faut reconnaître ceux qui enseignent le message différent. Il faut les confronter et résister à ceux qui se disent frères puis qu'ils ne le sont pas. Paul n'est pas resté silencieux par rapport à eux, il leur a adressé. Pourtant, d'autres fois, il est resté silencieux. Si on se rappelle l'épître aux Philippiens, il y avait des gens qui prêchaient Christ, mais avec des mauvais motifs. Dans ce temps-là, il a dit, il prêche Christ, laissez faire. Faut pas provoquer de division avec ça. Mais quand l'Évangile est compromis, là, faut résister. Mais sur les choses secondaires, faut pas provoquer de division. Et là, ce que Paul fait, par exemple, ici, dans les églises, dans l'église à Jérusalem, puis dans son message aux églises de la Galatie, c'est qu'il résiste et il affirme la vérité de l'Évangile pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi les croyants. Et donc, il faut confronter et résister à ceux qui se disent frères, mais qui ne le sont pas, parce que en réalité, c'est l'Évangile qui peut être compromis puis apporter des divisions dans l'Église, mais là, des divisions qui sont très, très regrettables. C'est arrivé une fois, alors qu'on s'occupait de la jeunesse, qu'une jeune fille est arrivée. Elle avait été invitée par quelqu'un, et quelqu'un de la jeunesse, puis elle vient à l'église, elle vient à nos réunions de jeunesse, puis c'est une fille là, attachante. Puis là, on voit toutes les filles commencent à devenir amies avec elle. Puis à un moment donné, j'apporte un enseignement sur l'Évangile. Puis en quelque sorte, on adressait la question, comment on répond à des témoins de Jéhovah? Alors, mais à travers ça, je présente l'Évangile. Puis à la fin, elle vient me voir, puis elle commence à me parler, puis à me dire, tu sais, moi, là, telle personne dans ma vie, elle a beaucoup de respect, c'est une personne qui fait beaucoup de bien. Puis quand tu as dit là, que juste Jésus qui sauve, là, moi, je crois ça, mais cette personne-là, je peux pas savoir si elle a cru, mais je crois qu'elle est sauvée pareil. Et là, en discutant avec elle, c'est finalement, tu es en train de me dire que cette personne-là, tu crois qu'elle est sauvée sur la base du fait qu'elle est une bonne personne. Et là, dans mon cœur, qui commençait à émerger un cœur de berger peut-être, j'étais là et je disais, mais ça marche pas ça. Puis là, elle commence à devenir amie avec tout le monde. C'est quoi cette histoire-là? Là? J'ai dit, cette personne-là était peut-être une bonne personne, mais pas sauvée à cause de ça. Si elle est sauvée, c'est parce qu'elle a cru, elle a placé sa foi en Jésus seul pour le salut et le pardon de ses péchés. C'est la seule raison pour laquelle elle est sauvée, elle a placé sa foi en Jésus. Ah, mais moi, je crois quand même que... Non. Si c'est pas ça, c'est pas l'Évangile. Puis je veux pas l'affirmer avec prétention, mais je veux l'affirmer plutôt avec la vérité des Écritures. Paul a résisté à ceux qui se pensaient des bonnes personnes, mais il a présenté l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est une grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ, il a tout accompli pour nous. On a juste besoin de croire et de saisir sa grâce. Pas besoin de plus. Là, je le sais, puis c'est venu avec les dernières prédications. Ouais, mais quand que je suis sauvé, j'ai besoin que Jésus devienne mon Seigneur. J'ai quand même besoin de faire quelque chose. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le fait que Jésus devienne ton Seigneur parce qu'il t'a justifié, ça contribue pas à ton salut. C'est Christ qui a tout accompli. Puis s'il a tout accompli, puis que tu reconnais qu'il t'a fait de grâce, tu veux vivre pour lui, c'est une conséquence de ton salut. Et lorsqu'on vient à Christ, on veut que Christ soit le Sauveur, le Seigneur, c'est ça l'Évangile. Mais ce qui sauve, c'est ce que Christ a accompli. Et la suite, c'est la grâce de Dieu encore une fois dans ma vie, pour lui obéir puis marcher pour lui. Maintenant, on a vu qu'on doit être unis dans notre compréhension de l'Évangile, on doit être unis dans la préservation du message de l'Évangile. La troisième façon de demeurer unis, c'est en étant unis dans la mission pour annoncer l'Évangile. Et là, le temps avance. Mais ce qu'on désire, c'est faire de toutes les nations des disciples. On doit comprendre que cette mission-là est centrale dans les Écritures. On peut utiliser une sorte de langage parfois, que notre mission, c'est d'apporter l'amour de Dieu aux gens, l'amour de Jésus par nos actions. C'est vrai, mais annonce l'Évangile, parce que sinon, tu n'es pas en train d'annoncer l'Évangile. Et notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples par la prédication de ce que Christ a fait pour nous, par la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et cette mission-là, c'est d'annoncer que le salut se trouve en Jésus seul et de faire de toutes les nations des disciples. Mais on doit rester unis dans cette mission. On peut parfois, comme j'ai dit au début, avoir des divisions sur des choses qui sont secondaires. Ce qui nous unit, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est Jésus. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ est ce qui nous unit. Si je suis ici ce matin, puis si la plupart d'entre vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'un jour, Jésus-Christ a fait une différence dans votre vie. Si on est unis ensemble, frères et sœurs, c'est parce que Jésus et l'Évangile nous unit. Et ça peut arriver souvent qu'on s'attarde sur des choses secondaires qui apportent des divisions. Puis je rends grâce à Dieu parce que je vois, puis je partageais ça aux leaders la semaine passée, je vois que l'unité grandit dans l'Église. Mais je vois que l'unité grandit parce qu'on arrive, on s'efforce de mettre l'Évangile au centre. Mais lorsqu'on s'éloigne de ça, ça me fait peur. Parce qu'on peut vivre des divisions entre nous sur des choses qui sont secondaires. On a besoin, frères et sœurs, de garder l'Évangile comme au centre. Et lorsqu'il arrive des choses qui sont secondaires, pose-toi la question. Est-ce que l'Évangile est compromis dans ça? Sinon, bats-toi pas avec n'importe quoi, là. Bats-toi pour l'Évangile. Puis manifeste l'Évangile dans tes relations. Dans Philippiens, chapitre 1, Paul va dire une chose à l'église de Philippe, chapitre 1, verset 27. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Unis avec quoi? Unis avec l'Évangile. Puis s'il y a d'autres choses qui vous divisent, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas observé, regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. On a besoin de vivre l'unité avec l'humilité dans l'Église si on veut marcher ensemble pour la gloire de Dieu, unis dans cette mission d'annoncer l'Évangile. Laissons pas l'ennemi venir nous diviser avec des choses qui sont pas importantes. Gardons la vérité de l'Évangile et la vérité des Écritures au centre, puis ce qui nous motive ensemble. Le reste, c'est peut-être des choses qu'on tient un peu trop. On a juste besoin de laisser Dieu agir à travers ça. On a besoin de travailler ensemble, chercher la sagesse pour accomplir efficacement le ministère en manifestant la grâce de l'Évangile dans nos actions. C'est l'Évangile qui nous unit, c'est la vérité des Écritures qui fait qu'on veut rester unis dans la mission. Et par la grâce de Dieu, c'est une tâche immense, c'est énorme de dire que comme disciple, comme Église de Jésus-Christ, il faut amener le salut dans toutes les nations. On va-tu être capable, les 300 personnes ici, de faire ça? Christian dit « Oui, moi j'aime ça, mais pas sûr que je vais être capable. Pas sûr qu'on va être capable ensemble de 300 personnes. C'est une tâche immense. » Mélanie a parlé tantôt. 1900 langues qui n'ont pas les Écritures encore. On va-tu traduire ça ici, nous autres, là? Non. Dieu nous a fait une grâce d'avoir d'autres frères et sœurs, puis de susciter ailleurs dans le monde des gens qui entendent l'Évangile, qui viennent à lui. Puis on peut s'unir ensemble, unis, à une condition par exemple, peut-être deux, d'être unis dans notre compréhension de l'Évangile, d'être unis dans ce qu'on affirme être la mission de l'Évangile. Mais Dieu nous a donné, à notre Église, le privilège de faire partie d'une association d'Églises. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est associé avec d'autres Églises ensemble pour accomplir la mission. Puis des fois, dans l'Église, là, vous entendez parler de l'association, SEMBEC, puis toutes sortes de camps des boulots, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de ministères autour, des ministères de l'association, mais j'en ai rien à cirer de ça. Moi, je vois à l'Église l'espoir, c'est bien correct pour moi. Mais le Seigneur nous fait une grâce que peut-être des fois, on ne comprend pas, on ne saisit pas. D'avoir des églises qui travaillent ensemble pour apporter l'Évangile ailleurs dans les nations. Il y a des ministères qui existent, comme on a entendu parler de Wycliffe. On peut s'associer ensemble puis apporter l'Évangile dans les nations, mais on doit s'entendre sur une chose, sur une bonne compréhension de l'Évangile puis sur ce que c'est exactement la mission. Et j'aimerais terminer en vous parlant, parce que notre pasteur Yannick m'a demandé de vous parler, d'annoncer cela, mais j'ai décidé de le placer ici parce que je pense qu'une des choses que Sola cherche à faire, c'est de regrouper les évangéliques au Québec. Pas n'importe qui, ceux qui s'entendent sur une compréhension correcte de l'Évangile, puis une vision correcte du ministère. Puis on s'unit ensemble pour qu'ensemble on travaille à avoir l'Évangile au cœur des ministères, puis de notre mission. Et Sola, Yannick travaille beaucoup dans Sola, et puis il y a une conférence qui s'en vient du 3 au 5 octobre. Et ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers Sola? C'est d'unir les évangéliques ensemble, pour pas que la tâche soit difficile à accomplir, mais qu'on puisse se faciliter en étant unis autour du message de l'Évangile. Puis là, saisir Christ, le sous-titre « Ensemble à la poursuite de la connaissance de Christ ». On veut poursuivre la connaissance de Christ dans nos vies, dans nos ministères, puis le voir aussi dans toutes les nations. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller consulter le site sola.org. Ça unit plusieurs associations d'églises au Québec, mais avec un seul but, l'Évangile au centre de nos ministères et de la mission. Alors, vous pouvez le considérer sérieusement d'assister à cette conférence-là si vous voulez comprendre un peu plus ce qui nous unit, puis comment on peut être unis ensemble pour l'Évangile. L'Évangile est ce qui nous unit, puis l'Évangile est notre mission. On veut s'unir avec ceux qui partagent la même foi dans la vérité de l'Évangile pour annoncer le salut dans les nations. On voit à la fin du passage de l'apôtre Paul que les apôtres ont donné la main d'association parce qu'ils ont reconnu que l'apôtre Paul prêchait le vrai Évangile et que Dieu l'avait appelé au ministère. Maintenant, ensemble, vous pouvez probablement reconnaître l'œuvre de l'Évangile dans vos frères et sœurs. Vivons ensemble, unis, pour l'Évangile, unis pour l'Évangile et par l'Évangile. Dieu a manifesté sa grâce envers nous dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et nous garde ensemble par son Esprit. On a besoin de travailler ensemble, de rendre gloire à Dieu et proclamons ensemble notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en étant unis pour l'Évangile. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Ce passage, Seigneur, nous parle de combien tu as fait grâce à Paul et aux autres apôtres en les unissant ensemble pour accomplir la mission. La tâche est immense, Seigneur. Tu nous demandes d'aller jusque dans toutes les nations pour annoncer ta grâce, ton Évangile. Seigneur, on va aller jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter la lumière et ta bonne nouvelle. On a besoin, Seigneur, d'être unis ensemble. Seigneur, ne permets pas, dans ta grâce, qu'on soit divisé sur des choses qui sont secondaires. Ne permets pas qu'il y ait des conflits entre les frères et sœurs de cette Église, Seigneur, mais plutôt qu'ils puissent se manifester le pardon, l'amour, de vivre en paix, unis ensemble autour d'un même thème, Jésus-Christ seul, pour la gloire de Dieu et le salut des nations. Garde-nous unis, Seigneur. Allume en nous cette passion pour toi afin qu'on puisse aller et parler de toi et voir ta grâce autour de nous et qu'on puisse voir des âmes venir à toi, Seigneur. Bénis les ministères qui sont dans le monde entier, qui cherchent à répandre l'Évangile. Seigneur, bénis-les et que ton nom puisse être glorifié dans toutes les nations. On a hâte à ton retour, on a hâte d'être avec toi. En attendant, Seigneur, répands ta grâce sur nous afin qu'on demeure unis pour toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.